Bonjour Jérémy Gindre.
Bonjour.
Le point de départ de chacune de vos nouvelles que l'on peut lire dans On a du mal, publié aux éditions de l'Olivier, est une notion scientifique. Comment est née cette idée ?
Alors, elle est née d'un contexte un peu particulier qui était une résidence donc avec des chercheurs en laboratoire au centre interfacultaire en sciences affectives et centre interfacultaire en neurosciences de l'université de Genève.
Ça en jette, hein ?
Ah oui, ça en jette tout de suite, je ne me lasse pas de le prononcer. C'était un projet à la base, en fait, il fallait soumettre un projet pour une période de bourse qui était sur concours d'un programme qui s'appelle Artist in Labs et qui consiste justement à proposer à des artistes de suivre les recherches de scientifiques et de baser un travail là-dessus. Il me semblait que le plus approprié pour un domaine aussi large et aussi dense que celui des sciences affectives et des neurosciences, le récit me semblait plus juste et plus apte à fouiller tout ça.
Le récit donc, mais comment glisser des notions neuroscientifiques dans la fiction ? Comment vous y êtes pris, Jérémy Gindre ?
Comment je me suis pris ? D'abord, j'ai récolté toutes ces données, parce que je n'y connaissais à peu près rien. Donc, je suis vraiment allé en touriste. Et comme un touriste, j'ai pris des photos, j'ai pris des notes, j'ai essayé de m'instruire au mieux. Et à partir de là, en fait, les choses se sont faites toutes seules. Simplement que ce sont des sciences qui sont bourrées d'anecdotes, de découvertes particulières et dont les sujets mêmes de recherche se prêtent assez bien à l'adaptation sous forme de fiction. Donc, soit en effet c'était des notions que je trouvais intéressantes d'essayer de communiquer par le biais de la fiction, soit simplement c'était des notions plutôt qui me permettaient d'améliorer des situations, d'améliorer le caractère d'un personnage.
Et ce qu'ont en commun tous ces personnages, c'est le trouble. D'une manière ou d'une autre, tous déploient différents types de troubles.
Oui, alors l'idée, ce n'était pas de faire un catalogue de gens qui ont des problèmes de cerveau ou des problèmes affectifs. Le point de départ, ben voilà, est-ce que ce sont tous des personnages qui ont des troubles ? Oui, mais d'une certaine façon, qui n'en a pas ? Et surtout, je voulais obtenir une certaine variété entre eux, c'est-à-dire pas faire un catalogue de cas, de situations difficiles. C'est pour ça que le recueil s'appelle « On a eu du mal », qui est une formule qui, pour moi, relève d'une certaine expérience peut-être difficile, mais qui n'est pas insurmontable. En général, quand on dit « on a eu du mal », c'est quand on a eu de la peine à atteindre, je sais pas, un point de vue à la montagne, où voilà, c'était difficile, mais on y est arrivé, ou une certaine difficulté, mais quelque chose qui n'est pas insurmontable, qui est plutôt de l'ordre de l'anecdotique, donc de quelque chose qui se raconte.
Ils sont tous quand même un peu décalés, vos personnages, un peu aussi emprisonnés dans leurs pensées. En tout cas, on est à l'intérieur d'eux. Et chacun, finalement, cherche une porte de sortie. Il s'en sort, d'accord. On a eu du mal, c'est derrière, on va s'en sortir. Mais quand même, ils sont en recherche.
Oui, ils sont, disons que c'est quand même le moment le plus intéressant à raconter d'un personnage. C'est quand il essaye de se dépêtrer de la situation embarrassante dans laquelle il s'est mis.
Et vous préférez les raconter de l'intérieur ?
Ça, c'est des espèces de cuisine, des recettes de cuisine d'écrivain, mais moi, je me sens particulièrement à l'aise avec le présent quand j'écris. Donc oui, c'est ça qui donne peut-être cette impression d'être à l'intérieur des choses.
Dans la pensée aussi.
Voilà,
et là, on rejoint les neurosciences, peut-être.
Oui, alors c'est vrai qu'il arrive qu'on soit dans la pensée de ces personnages. Néanmoins, j'ai encore jamais écrit à la première personne du singulier, mais toujours avec cette espèce de notion du narrateur omniscient qui voit tout et qui entend tout et qui donc peut se permettre de passer d'une espèce de caméra aérienne à venir sur l'épaule de son personnage et à se glisser dans sa tête et regarder à travers ses yeux. J'aime bien faire ça, en fait. J'aime bien avoir une espèce de point de vue de mouche qui se déplace comme ça autour et à l'intérieur des personnages. Alors, ça doit être agaçant pour eux, mais...
Est-ce que la neuroscience est un bon champ d'exploration, champ de recherche pour la fiction littéraire ?
Oui. En tout cas, à mon point de vue, ça coulait de source. Ce sont des sciences qui s'intéressent à nos peurs, à nos joies, au fonctionnement de nos réactions, automatiques. Je pense que c'est une des sciences les plus intéressantes à explorer. Maintenant, je ne m'arrête vraiment pas à celle-ci en particulier. Et moi, je me suis d'abord beaucoup intéressé à la géographie, à la géologie. J'ai fait ce détour par les neurosciences et les sciences affectives. Maintenant, je reviens plus à des choses historiques avec les archéologues. Donc, je pense que la science dans son ensemble et un champ très intéressant pour la fiction, parce que on ne parle que de découvertes, donc ces découvertes sont toujours intéressantes à raconter.
Est-ce qu'à l'inverse, à votre avis, Jérémy Jarne, la neuroscience devrait aussi explorer les pistes de la fiction ?
Alors ça se fait déjà avec tout ce qui s'appelle les « as if emotions », qui sont en fait toutes les émotions qu'on peut ressentir en fiction, et voilà comment ça se fait que notre organisme réagit avec les mêmes fonctionnements de peur et de joie et de tristesse face à un film dont on sait que ce n'est pas une situation réelle. Pourquoi est-ce qu'on se met à pleurer dans un roman alors que les personnages ne sont ni nos proches ni nos contemporains même? Il y a des mécanismes qui sont similaires dans les émotions qui sont « as if emotions ». J'aime bien utiliser ce terme anglais parce que c'est des émotions comme si. Voilà, je me suis carrément égaré dans la réponse.
Non, vous avez bien répondu, Jérémy Gendre. Vous écrivez des nouvelles. On a eu du mal, c'est un recueil de nouvelles, de 5 nouvelles précisément. Pourquoi avoir fait ce choix de la brièveté ?
Alors, c'était presque obligatoire, en fait, parce qu'il y avait tellement de sujets différents et de... Voilà, des champs suffisamment diversifiés pendant cette... C'était une résidence qui a quand même duré une année. Donc pendant une année, j'ai suivi à peu près un nombre colossal de cours, de conférences, de colloques et ce genre de choses. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont accumulées. Et c'était impossible pour moi de les réunir dans une seule histoire. Surtout si je voulais éviter, justement, comme je vous le disais avant... une impression de catalogue, catalogue de troubles, catalogue de cas, catalogue de notions scientifiques. Et pour pas avoir l'impression que j'essaie de ranger tous les Legos dans la même boîte, il fallait que je puisse passer de plusieurs contextes différents, d'un personnage à l'autre.
Et ce que je trouve intéressant, c'est que malgré cette brièveté, vous ne négligez aucunement les détails. Au contraire, vous semblez y tenir.
Oui, alors, le cadre pour moi est déterminant. J'ai vraiment besoin, quand je raconte l'histoire, de contextualiser la chose, de savoir si on se trouve à la montagne, en plaine, au Canada ou en Suisse, s'il fait beau, s'il fait vilain, si les oiseaux chantent ou s'il y a du brouillard. C'est vraiment des choses dont j'ai besoin. Enfin, j'ai besoin de cette immersion, tout d'abord en tant que narrateur et puis après en tant que lecteur. Moi, j'adore en fait ça quand on me balade. Et donc oui, même si la forme est courte, j'ai besoin de ce cadre.
Le cadre, c'est aussi l'environnement qui est très présent dans vos nouvelles, dans chacune d'entre elles, parfois presque menaçante, dangereuse.
Alors, l'environnement, c'est très pratique, en fait, pour mener une histoire. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on peut balader son personnage aussi. C'est-à-dire que si tout doit venir des impulsions propres au personnage, moi, j'ai un peu de peine, en fait, c'est des personnages qui sont, en effet, qui ont une personnalité assez marquée pour la plupart, mais j'essaie de pas les développer plus que ça. J'aime bien toujours le principe de la coquille vide, un peu le vieux truc de Tintin, la chose qui fait qu'on peut facilement s'identifier aussi en tant que lecteur au personnage. Et donc, c'est vrai que je passe beaucoup de temps à regarder comment est-ce que l'environnement influence les actions et les pensées des personnages.
Lorsque vous décrivez ce recueil, Jérémy Jarne, vous parlez d'une écriture de l'extra-quotidien. C'est quoi l'extra-quotidien ? C'est quand l'extraordinaire vient basculer, désorienter l'ordinaire ?
Oui, c'est ça. Alors c'est drôle parce qu'on en parle très souvent autour de ce quatrième de couverture, cette notion d'extra-quotidien. Je pense que si on avait su qu'on allait en parler autant, on n'aurait pas choisi cette appellation parce qu'on se risque un peu. Mais
ça ne vous correspond pas tant que ça, c'est ça ?
Non, c'était simplement d'avoir justement... c'était la question de savoir si... On parlait de faits extraordinaires ou de faits qui relèvent de la banalité, et on est un peu entre les deux. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande aventure dans ces histoires, et ce n'est pas non plus le trajet quotidien de personnages qui prennent le métro et qui vont au travail. C'est-à-dire que c'est tous ces moments en fait, où notre quotidien bascule dans quelque chose de surprenant qui réveille, en fait, notre comportement.
L'ordinaire vous nourrit moins votre imaginaire ?
Alors, c'est plutôt justement toutes ces petites lumières qui brillent dans les journées. Mais ça peut être vraiment Je pense pas pouvoir apporter d'idées nouvelles sur cette question-là. Je pense que simplement si on prend la semaine est très bien faite. Il y a des jours de la semaine, il y a des week-ends, et le week-end est une forme d'extra quotidienneté. Voilà, on a le choix de partir à l'aventure ou de rester à la maison. Et voilà, rien n'empêche que quelque chose prenne feu à la maison pour que déborder dans cet extra quotidien, ou au contraire que notre week-end d'aventure tourne à la platitude absolue.
Vous êtes auteur, Jérémy Gindre, vous êtes aussi sculpteur, dessinateur, et vous explorez encore d'autres formes d'art. Comment est-ce que l'écriture s'impose ?
Alors, quand on le dit comme ça, en effet, on a l'impression que je suis une espèce d'homme orchestre, mais c'est pas vraiment ça, en fait. C'est simplement passer d'un outil à un autre, en fait. C'est comme avoir un établi, on va plutôt utiliser le marteau pour planter un clou et une pince pour l'enlever. Je choisis en fait le moyen qui est le plus approprié à la chose que j'ai envie de raconter.
Est-ce qu'après vous arrivez à l'expliquer pourquoi ces histoires, si mis à part le contexte de la résidence d'écriture, prennent la forme du mot, du verbe ?
Alors tout simplement parce que justement, comme je vous le disais, la nouvelle me semblait l'outil le plus approprié. Si je reprends l'image de l'établi, c'est vraiment ça en fait. Il y avait trop de choses pour que ce soit raconté dans une série de dessins ou que j'arrive à caser tout ça dans une exposition. C'est simplement qu'à un moment, le sujet monte jusqu'à une certaine forme de mayonnaise qui prend plus ou moins de place. Et en fait, l'écriture, c'est une façon d'arriver à faire rentrer tout ça dans un format qui tienne.
Et maintenant que c'est rentré, que peut-être il vous est moins nécessaire de tout placer, est-ce que vous pourriez extraire, ci ou là, certains pans de vos histoires pour la transformer en d'autres matières ?
Oui, alors ça arrive très fréquemment, en fait. En effet, c'est intéressant de le relever. C'est-à-dire que tous ces moyens que j'utilise pour raconter les choses ne sont pas du tout étanches les uns aux autres, en fait. Il arrive très souvent qu'à partir d'un même sujet, il y ait en effet une exposition avec une série de dessins, et que ça finisse dans une histoire, et que entre tout ça, il y a encore une conférence. Donc, c'est pas des choses qui sont hermétiques la plupart du temps aussi. Un passage d'une nouvelle peut se retrouver sur un tableau ou peut donner naissance à une sculpture. C'est des choses qui s'augmentent parmi, en fait. J'ai besoin de trouver le moyen le plus juste pour que les choses tout à coup se mettent en friction et fonctionnent.
Merci Jérémy Gindre.
Je vous en prie.